Je vous salue, Marie.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
ne nous laisse pas entrer en tentation. À la conférence d'hier, vous m'entendez bien ? Pas de retour Covid. À la conférence d'hier, nous avons évoqué la figure de Satan, un des trois grands acteurs à l'origine de nos tentations. L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour nous troubler, nous barrer la route et nous détourner du prince de la paix, dont Isaïe parle en 9:5. Au cours de cette causerie, nous voudrions regarder de plus près la tentation elle-même, son mécanisme. Et donc nous allons revisiter « Ne nous laisse pas entrer en tentation » ou peut-être ce titre qui parle à certains « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Si la tentation peut comporter une dimension d'épreuve, comme on teste un métal pour voir sa résistance, nous essaierons de montrer les bienfaits de ce type de tentation. Par ailleurs, nous allons examiner le processus de la tentation qui cherche à nous précipiter dans le mal. Nous essaierons de faire apparaître sa mécanique subtile. Et puis, il est très important de mieux nous connaître, à la fois nos points de fragilité et nos richesses, car nos richesses, nos charismes, les dons que nous avons peuvent être un obstacle à la vie en Dieu si on les utilise mal. Je ne sais pas si on aura le temps d'envisager tout, mais on commence. Première partie, tentation-épreuve ou tentation-séduction. Au sujet de la tentation, on trouve dans l'Écriture des formules apparemment contradictoires. Par exemple, Jacques 1, 13, qui dit « Dieu ne tente personne ». Et puis, si vous lisez Deutéronome 13, 3, il est dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous tente, afin qu'il paraisse si vous l'aimez ». Je suppose que vous en convenez comme moi, ça paraît s'opposer. Pour répondre à cette antinomie, l'étymologie du mot tentation est intéressante, et celui qui en a fait une belle exégèse est saint Augustin. Il a éclairé les choses en distinguant, c'est le titre de cette partie, tentation épreuve et tentation séduction. Il dit: l'idée de tentation se prend de deux manières bien différentes dans ces passages. Dieu ne tente personne et le Seigneur votre Dieu vous tente. Dans le premier, c'est le sens de la séduction. Dans l'autre, c'est le sens d'épreuve. Tentation et épreuve, tout d'abord. C'est, entre guillemets, Dieu qui va la permettre. De toute façon, même la tentation de séduction, il la permet, puisqu'il permet que Satan agisse jamais au-delà de ce qu'il faut. Mais la liberté de l'homme est toujours là, possible, pour acquiescer. Tentation épreuve. Elle n'a qu'un but, vérifier ce que je vaux, et deuxièmement, affermissement. Et donc, si vous ne voulez pas de tentation dans votre vie, d'abord, vous devez avoir un petit problème. Vous êtes un peu shooté quand même, parce que vous n'êtes pas dans le réel. Et puis surtout, les amis, plus sérieusement, si vous voulez grandir, parce que si vous êtes venu à cette retraite, c'est très clair, c'est que vous avez un vrai désir de grandir, de vous élever, de connaître plus de paix. Eh bien, curieusement, ce qui vous paraît contraire à cela est ce qui sert cette paix. Saint Augustin. Si Dieu éprouve, ce n'est pas pour apprendre ce qu'il ignorait, mais afin que les hommes, se connaissant mieux et devenus plus humbles, implorent le secours de Dieu et ne méconnaissent pas sa grâce. Tentation-séduction maintenant. C'est plutôt le diable qui va faire cela. Parce que la tentation-séduction, ce n'est pas dans le but d'un affermissement, d'une élévation de l'âme, c'est dans un but de chute de l'âme. Dieu ne cause jamais directement le péché, mais il peut le permettre indirectement, au sens où il s'est lié à notre liberté. Nous ne sommes pas des Pinocchio avant que les fils soient coupés. Nous sommes réellement libres. Réellement libres. Et avec donc cette capacité de le rejeter. Il l'a accepté. Parce qu'il ne veut pas que nous l'aimions par force. Le dépôt de la liberté, le don de la liberté fait à l'homme est la plus grande preuve d'amour que Dieu a à notre égard. Alors, distinguons, vous comprenez, et là je vais faire appel au cardinal Journet, ce grand théologien. Dans l'action du pécheur, ce qu'il y a d'être remonte à Dieu. Si vous voulez quelque chose de moins compliqué. Ce qu'il y a de liberté remonte à Dieu, puisque Dieu permet que la personne soit libre. Par contre, ce qu'il y a de péché remonte au pécheur. Et ne remonte pas à Dieu, parce que Dieu ne peut jamais vouloir le péché. Dominique Soto, un dominicain du XVIe siècle, donne un bel exemple, puisque ça peut vous paraître un peu du langage un peu resserré, un peu difficile à comprendre. Il donne l'exemple d'un calligraphe compétent et habile qui écrit avec une plume mal commode ou sur un papier de mauvaise qualité. Il est, ce calligraphe, cause de l'écriture, comme Dieu est cause de la liberté, mais la mauvaise calligraphie sera rapporté au papier ou à la plume, c'est-à-dire à la créature. Est-ce que ça va? Il y a une autre tentation qu'il nous faut évoquer. C'est la tentation endurcissement. Vous voyez, il en a été un peu question, je pense, en forme d'allusion dans une causerie. C'est tout simplement le péché contre l'esprit. C'est un endurcissement définitif. Revisitez avec moi l'agonie au jardin des Oliviers. Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation, dit Jésus. C'est cette tentation endurcissement qu'il vise. Matthieu 26, 41. C'est pas la tentation simplement de s'endormir. C'est sûr que ça a fait souffrir Jésus. Je vous le dis, parce que je crois que ce matin, on m'a dit qu'on vous a fait une remarque sur le silence. Vous blessez Dieu quand vous attendez au repas et que vous papotez entre vous. Ça fait mauvais effet sur les autres. Ça donne l'impression qu'on n'est pas en retraite. Arrêtez de faire ça. C'est pas l'adjudant qui vous parle. Vous blessez Jésus. Vous blessez les cœurs des autres. Faites que je revienne plus là-dessus. C'est pas mon rôle. Le maître le prédit explicitement à Pierre. Cette nuit même, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Et les disciples, dit l'Évangile un peu plus tard, l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. L'Apocalypse explicite cela. « Je te garderai de l'heure de l'épreuve, c'est-à-dire de la tentation qui va fondre sur le monde. » Et cette tentation est explicite aujourd'hui, c'est la grande apostasie tranquille. Il y a ce verbe grec qui a fait qu'il y a une retraduction du Notre Père. C'est sûr que l'ancienne traduction, même Benoît XVI disait qu'elle était un peu bancale, quand on pense que l'Église a permis ça pendant des années, alors que c'est le cœur de la vie chrétienne. Et regardez les traductions de la liturgie, c'est pareil. Toutes ces dimensions du sacrifice qui étaient enlevées. Ne me dites pas qu'il n'y a pas eu de crise après le concile. C'est vraiment catastrophique. Le verbe grec, c'est « eisphéro », qui désigne le fait de pénétrer à l'intérieur et pas seulement de rester sur le seuil. Je vais vous donner une image pour comprendre, parce que pour moi, la traduction nouvelle n'est pas complètement claire. Je ne veux pas polémiquer, je préférais l'ancienne traduction « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». C'était beaucoup plus clair. Bon, c'est parce qu'il y a des partis pris exégétiques pour certains, peu importe. Je ne vais pas entrer dans des distinctions techniques. Moi, l'Église me demande de faire ça, j'accepte. Mais quand j'entends « ne laisse pas », ne nous laisse pas entrer en tentation, je comprends intérieurement, ne nous laisse pas succomber. Parce que moi, je demande à ma maman qui n'a pas fait d'études, tout ça, elle dit, qu'est-ce que tu comprends? Je comprends rien. Et ils sont comme ça nombreux, et je ne sais pas un mépris. C'était beaucoup plus clair avant pour moi. L'image est la suivante. C'est des sables mouvants. Autre chose est de venir vers la zone sensible des sables mouvants. Autre chose est de pénétrer à l'intérieur. Et là, tu seras absorbé. Est-ce que ça va? Et donc, dans le deuxième cas, ne nous laisse pas entrer. C'est pas simplement pas entrer, puisque la tentation est bénéfique. Donc, il y a des moments où il faut entrer dans la tentation. C'est pour ça que c'est ambigu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de critiquer ceux qui ont pris les décisions. Ce que Jésus veut, c'est qu'on soit préservé d'arriver dans la zone exacte à l'intérieur des sables mouvants, et puis là, on va périr. Et voilà pourquoi, par exemple, le prêtre dit la prière qu'il dit en silence, juste avant de communier. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vous approprier cette prière, la faire vôtre. Alors, autre point important pour notre vie chrétienne, les bienfaits de la tentation épreuve. Je dis bien tentation épreuve et pas tentation séduction, c'est-à-dire comme on teste un métal pour savoir ce qu'il vaut. Comme par exemple, j'ai vu un reportage chez IKEA. Je suis sponsorisé. Non, chez IKEA. Et donc, ils testent tous les... Ils tapent sur des sièges, vous avez dû voir ça, pour que quand vous soyez assis dedans, ça ne s'enfonce pas trop. Voilà, donc on teste. On teste. Si vous voulez, tentation épreuve, c'est tentation test. Éprouver. Je veux voir ce que tu veux. Tertullien. Nul n'atteindra le royaume céleste sans avoir été tenté. Donc, quand vous aurez des tentations de toutes sortes à l'avenir, aujourd'hui, tentations comme on l'a expliqué tout à l'heure, d'avoir une langue qui s'agite un petit peu, par exemple, ou enfin, vous voyez des choses derrière. Bon, eh bien, considérez que cette tentation, il faut la bénir, parce que c'est une occasion de croissance. Premier grand bienfait de cette tentation test-épreuve, elle procure une meilleure connaissance de moi-même, beaucoup plus lucide. C'est une chose qui me touche beaucoup dans les entretiens avec les gens. Ah, mon père, il m'a fallu attendre tant d'années, j'ai découvert ça, comme mode de fonctionnement. Je m'en rendais même pas compte. Personne n'était de bonne volonté. Elle se rendait pas compte. Et qu'est-ce qui a fait ça? Les multiples tentations qui, au bout d'un moment, lui ont ouvert les yeux, lui ont fait tomber des écailles, des yeux sur elle-même ou sur lui-même. Saint Augustin. L'homme est en effet la plupart du temps inconnu à lui-même. Il ignore ce qu'il peut porter et ce qu'il ne peut pas porter. Vient la tentation comme une interrogation et l'homme se découvre lui-même. Deuxième bienfait. Non seulement l'ébranlement causé par la tentation conduit à une plus juste perception de ce que je suis, de mes limites, mais par là même il va accroître mon humilité. Je vais toucher du doigt ma faiblesse, mon impuissance. André Louf, ancien père abbé du Mont des Cats, dans un très beau livre, Au gré de sa grâce, dit « Aussi longtemps que nous nous opposons de mille manières à notre faiblesse, la puissance de Dieu ne peut pas agir en nous. Bien sûr, nous pouvons faire quelque effort pour corriger un tant soit peu notre faiblesse, mais en fait, cela ne sert à rien. Car la merveille de la puissance de Dieu et la merveille de notre conversion sont hors de notre portée. » Troisième bienfait, permis par la tentation. Étant donné que je vais toucher du doigt ma faiblesse, mes limites, étant donné que je vais toucher du doigt, Jésus, je vais pas y arriver. Et donc, Dieu, viens à mon aide. Comme disent les moines. N'oubliez pas, c'est pas une petite ritournelle. Chaque moine est convaincu que la prière de l'office lui est impossible sans la grâce de l'Esprit. Nous ne savons pas prier nous-mêmes, mais l'Esprit est capable de prier en nous. Et ceci vaut pour tout. Pourquoi beaucoup de personnes peinent dans le domaine de la vertu, des péchés dans lesquels ils retombent, tout ça? Parce que souvent, ils veulent y arriver à partir de leur force. Il faut toucher du doigt son impuissance pour commencer à appeler la puissance de Dieu. C'est la pédagogie que Dieu utilise. Jean de la Croix, une âme obtient autant qu'elle espère. Et Dieu, voilà. Moi, je bénis le Seigneur pour cette conversion vécue 15 ans après avoir été ordonné, où Dieu a permis que de me mettre par terre. Vous inquiétez pas, j'étais pas malade, tout ça. Mais que je croyais que j'étais malade. La purification que font Jésus, c'est dur, hein. C'est très dur. Bon. Mais si j'avais pas vécu ça, je marcherais pas à l'endroit. Je continuerais à marcher sur la tête, tout en étant un prêtre qui faisait de la prière, hein. C'est pas parce que tu fais de la piété que tu t'es encore laissé saisir par le mystère de la piété. Note bien ça. Petite Thérèse, qui n'est pas avare de comparaisons et d'images parlantes, dit, ça va parler aux dames qui font les cuivres chez elles. Au bout d'un moment, c'est fatigant les cuivres, n'est-ce pas? Va encore faire les cuivres. Remarquez la méthode employée pour faire briller les cuivres. On les enduit de boue, de matière qui les salisse et les rend ternes. Après cette opération, ils resplendissent comme l'or. Eh bien, les tentations sont comme cette boue pour l'âme. Elles ne servent qu'à faire briller en elles les vertus opposées à ces mêmes tentations. Retenez bien le cœur de l'affaire. Les tentations, il me semble, de plus en plus, visent de la part de Dieu à la chose essentielle suivante. Que tu touches du doigt que tu pourras pas y arriver par toi-même. Et que cela te fait entrer dans l'humilité qui n'a rien à voir avec l'humiliation pour t'obliger. Papa du ciel, j'y arriverai pas sans toi. Viens en tout. Ceci vaut pour le pardon, les amis. Je remarque ça, et il y a énormément, j'y reviendrai sans doute cet après-midi ou demain, je ne sais plus quand. Énormément de choses sont difficiles autour du refus de pardon. Pourquoi les personnes piétinent ? Parce qu'elles veulent pardonner à hauteur de femme et d'homme. Et même pour des pardons insignifiants de trucs au quotidien, même pour cela, il y aura besoin d'appeler. Et quand les personnes découvrent que c'est en appelant la source du pardon qu'ils pourront pardonner. Bon, imaginez pas qu'il y a les rideaux derrière moi. Vous savez ce qu'il y a, il y a le crucifix. Rappelez-vous sur la croix, Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, il n'a pas dit à ses bourreaux « Je vous pardonne ». Il est allé, tout fils de Dieu qu'il est, chercher la source du pardon. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous avez un pardon difficile à faire en famille, pour les religieuses, en communauté, les religieux, tout ça. En couple, je ne sais. Premièrement, consentir à pas y arriver. Deuxièmement, appeler au secours. Et il faudra remettre ça sur l'établi 36 fois par jour, surtout si par exemple tu as de la peine à pardonner ton mari qui nettoie jamais ses godasses quand il revient du jardin. Ça risque de se reproduire, je préfère te le dire, parce que c'est des plis. Mais de même, à 5 heures, c'est pas la peine que tu te présentes à l'heure du thé, tu pourras pas en placer une. Enfin, je veux dire, arrêtons de croire qu'il y a que les hommes qui sont des bœufs, quoi. Enfin, je veux dire, chacun a ses péchés, quoi. Enfin, et donc, je veux dire, il y a des traits de tempérament où on atteint notre plafond de verre, il faudra faire avec, quoi. Et voilà pourquoi le père Découvemont, qui a fait sa thèse de doctorat sur Thérèse de Lisieux, la charité chez Thérèse de Lisieux, il dit, j'ai vraiment regardé ça de près pour Thérèse, la moelle de la charité, ça vaut donc pour les couples, ça vaut pour les papas, les mamans, tout ça, bien sûr pour les religieuses, c'est être patient. Il y a des gens, voilà, ça bougera pas. Tiens, ben je vais vous donner, partager un exemple très personnel. En essayant d'être le plus discret possible. Il y a quelqu'un dans ma famille élargie, on va dire les choses comme ça, qui m'est très proche, que j'aime beaucoup, mais cette personne-là, elle a un tempérament très très vif, et quand tu poses une question, t'as pas toujours la possibilité de la terminer. Tu vois que ça évoque des choses. Bien. Et donc, je suis à table il y a quelques années, parce que je vois que ça a changé. Et je commence une question. Et paf, je me fais couper. J'ai pas terminé, tu sais, avec le ton un peu. C'est-à-dire qu'on vous pète pas, mais j'ai pas terminé. Alors, la personne est humiliée en face. Bon. Et puis, Jésus m'a fait comprendre un jour. Elle a atteint son plafond de verre. C'est plus fort qu'elle. Ça sort, comme on dit, plus vite qu'elle voudrait. Hein, non? Bon. Et donc, à partir de là, quand je rencontrais, que je déjeunais avec cette personne, bien sûr, je continuais à me faire couper. Et je disais oui. Ça installait dans mon cœur une grande douceur, une grande paix. Et des fois, à la fin de la personne, je crois que je t'ai coupé, Joël. Et très intéressant, je déjeune avec cette même personne, avec une autre personne qui est très liée et qui n'a pas découvert ce que j'ai découvert parce qu'elle n'est pas catho, tout ça, bon, pas vrai. Il pose une question. Vous devinez ce qui se passe. Et vous devinez la réflexion. J'ai pas terminé ma question. La pauvre personne en face, elle est tétanisée. Et là, j'ai compris une chose, c'est qu'elle a atteint son plafond de verre. Et quand je lui faisais des remarques, je lui demandais quelque chose qui était trop fort pour elle. Et puis moi, qu'est-ce que ça produisait? J'apprenais à l'aimer à perte, à ce qu'on me monte sur les pieds, sans que mon amour propre soit trop peu. écorné. Vous savez, quand vous aurez accepté que dans les couples, par exemple, que vous aurez accepté que sur tel domaine, votre mari, il a atteint son plafond de verre, c'est des rien. Vous m'entendez? Je parlais des godasses pour le jardin, des choses comme ça. L'épouse, pareil. Voilà. Quand vous aurez vu, c'est pas du tout que vous renoncez à changer l'autre, mais il n'y aura pas de changement chez l'autre tant que vous n'accepterez pas que l'autre soit autre. Et qu'il ne soit pas ce que je veux qu'il soit. Et vous verrez la grande paix. Et ça va même relancer votre amour. Vous accepterez les choses. Vous verrez aussi le nombre de, comment dire, de problèmes, de fritures sur les ondes dans la vie communautaire et la vie conjugale et la vie familiale qui vous seront enlevés. Vous savez, c'est des trucs de rien, la vie. Et la vie en Dieu, c'est des trucs de rien. Bon, c'était une parenthèse qui n'était pas parenthèse, finalement. Échographie de la tentation-séduction. Parce que vous voyez bien dans cet exemple que je vous ai donné, on est au cœur du combat spirituel. Et le combat spirituel, ça va être moi qui accepte qu'on me monte sans arrêt sur les pieds en me coupant la parole. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de devoir de s'asseoir s'il y en a qui sont comment famille Notre-Dame, équipe Notre-Dame ou il faut vivre la correction fraternelle. La correction fraternelle fait partie de l'amour, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vont atteindre leur plafond de verre. Il faut demander à Dieu là sur ce point-là. Il peut évoluer ou pas. Il peut pas. Voilà. Moi, quand je retrouve des confrères, il y a des trucs, des fois, on a la joie de se retrouver, il y a des petits trucs de comportement qui me heurtent, par exemple. Et bien, depuis que c'est accepté, voilà. La vraie vie communautaire peut commencer. Et pour vous, conjugal, familial, tout ce que vous voulez. Échographie de la tentation, séduction. Troisième partie. À la racine, il y a le désir. Attention, le désir n'est pas mauvais. Le désir est créé par Dieu. Le désir devient mauvais quand il est entaché par le péché. Mais le désir en tant que tel n'est pas un péché. Ceci, Benoît XVI l'a tellement bien montré dans son encyclique sur l'amour. Et le désir charnel en tant que tel n'est pas mauvais, il est voulu par Dieu. Il devient péché quand il y a du captatif, quand il y a utilisation de l'autre, quand en fait l'autre est un beefsteak utilisé pour ma propre jouissance. Pardonnez-moi mes termes. Mais dans la réalité, c'est ça. Saint Simon, le nouveau théologien, dit que le Christ, notre Dieu, est le but de tout désir. Alors, on va essayer de passer la tentation à la loupe. Sens à l'imagination, imagination au consentement. Revisitons ces choses. Les sens. La tentation, comme la vertu d'ailleurs, passe forcément par notre nature humaine. Saint Thomas d'Aquin, Dieu, dit que rien ne nous atteint en dehors des sens, qui sont les quatre fenêtres, les cinq fenêtres qui nous ouvrent sur le réel. Nous allons donc être tentés par les sens. Rappelez-vous, je vous ai dit, le diable ne peut pas nous atteindre dans la volonté, il va nous atteindre par la sensibilité. Même une tentation d'orgueil, c'est la sensibilité qui est tout d'abord flattée. Évitons d'enfermer les sens uniquement dans la sensualité, la sexualité pour parler crûment, ou la gourmandise. La tentation sensible est beaucoup plus large que cela. Voilà, on laisse les choses rentrer par les sens. Ensuite, il va y avoir l'imagination. Notre imagination est une puissance intérieure très en lien avec le sensible. Il suffit parfois d'une impression pour que se déclenche une grosse colère. Il suffit d'une image, parfois, pour que surgisse une violente tentation charnelle. Voilà pourquoi, chers amis, combattez actuellement ce fléau que sont les images dégradées de la pornographie. C'est une catastrophe, les amis. Catastrophe. Je vous ai dit, ça peut être un simple parfum. Un whisky, rappelez-vous. Mais tout ceci n'est pas péché. Il va falloir le consentement volontaire. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'imagination la folle du logis. Elle est sacrément imaginative, l'imagination. Les tentations vont donc être décuplées par l'imaginaire. On va se faire un cinéma intérieur. Je donne un cas très lourd. Je vais prêcher chez des consacrés dans lesquels il y a beaucoup de malades psychiatriques. Très gros, très lourd. Et j'en vois un, il n'avait rien pour m'attirer. Visage ravagé, des marches chaloupées, brutalité. Et je comprends pourquoi le visage était ravagé. Donc, il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et il me raconte. Et donc, il est persuadé, il a des difficultés avec l'autorité. Et parfois, il n'est pas persuadé. Il a comme des visions dans la nuit que son supérieur entre dans la chambre et le frappe. Et lui dit, va-t'en. Et là, j'étais bouleversé par ce pauvre, ouais. Donc, je lui ai dit, je vais prier ce soir pour vous. Donc, je prie pas avec lui, parce que comme il est fragile, je voulais pas d'interférence. Et je fais une longue prière. Je le vois le lendemain. Ça va? Non. Même chose. Je refais une prière le soir dans ma chambre, le lendemain, pour la première fois, après des mois. C'est parti, mon père. Et je ne suis pas très fut-fut, donc il y a des gens plus compétents que moi. Et donc ce garçon, en fait, ça peut être guéri au niveau de l'imagination. Je lui ai dit, vous ne retournez pas en psychiatrique, mais il faut que vous attaquiez à la racine votre problème, c'est dans l'imagination. Voilà, vous avez un problème avec votre père supérieur, supposons, et vous laissez, parce que vous êtes très sensible, rentrer les choses, et au bout d'un moment, vous faites un gros manège. Et le manège prend une place énorme, ce qui fait que ça a un tel pouvoir que vous êtes persuadé de le voir dans la nuit, qui vient dans votre chambre et vous dire, il n'est pas là, il faut partir. C'est dans votre imagination. On n'imagine pas le pouvoir du psychisme, les amis. Deuxième jour, troisième jour, tout était parti. Et alors, je lui dis, alors, on attaque. Vous attaquez à la racine. Oh, qu'il était beau, ce pauvre, qu'il était beau. Il va faire des pas de géant. Bon, vous devinez. J'ai demandé que ça crache un peu au bassinet. C'est-à-dire que j'ai fait appel à la victime. Parce que c'est déjà des cas tellement lourds. Donc vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est pas de l'anthropologie froide, machin. C'est des implications très réelles. Et revisite ta vie, parce qu'à des degrés moindres, tu peux vivre des choses comme ça, tu comprends. Je vous ai dit, on pouvait s'auto-posséder par la sensibilité, quand on écoute trop ce qu'on ressent, ce qu'on imagine. Un point important, toujours dans cette structure sens, imagination, consentement volontaire. Un mot que vous avez certainement entendu de notre cher Saint François de Sales, C'est son année de anniversaire cette année, les amis, 400e anniversaire. Hein. Un saint d'une grande puissance, d'une grande douceur. Vous avez certainement entendu dire, sentir n'est pas consentir, avec ces jeux de mots dont il avait là. Entendez bien, hein, sentir n'est pas consentir. Appliquez ça au péché, à la tentation. Sentir une tentation n'est pas consenti. Je vous dis cela pour les âmes facilement inquiètes parmi vous, facilement scrupuleuses, qui ont tendance à voir du péché partout. Attention, je ne vous regarde pas de haut, et Dieu ne vous regarde pas de haut. C'est votre combat à vous. Il est douloureux, je le sais. Mais sentir n'est pas consenti. C'est pas parce que vous sentez une tentation très fortement que vous avez péché. Sentir n'est pas consentir. Le péché advient quand il y a consentement. Quand on se complaît. Quand on dit oui. Il y a un père de l'Église, père du désert, et qui dit, quand le serpent rentre dans ta cellule, ferme la porte dès que tu vois la tête du serpent, parce que quand il sera rentré tout entré, tu seras perdu. Couper la tentation à la racine. Mais c'est pas parce que tu vois la tête du serpent et donc que tu sens la tentation très fortement. Faut apprendre à couper court, les amis. Je vous dis cela parce que on me l'a appris, mes amis. C'est la victime. Apprendre à couper court. Et pas des tentations sensibles. À couper court, par exemple, aux peurs. Moi, il a fait beaucoup de choses pour moi dans ce domaine. Après, il fortifie. Mais on dit pas aux gens qu'il faut couper court. Ce qui fait qu'ils se laissent complètement embarquer dans un flot. Ils sont plus le patron chez eux, quoi. La suggestion n'est pas le consentement. Je vais vous donner un exemple chez Catherine de Sienne, cette grande aimante, amante du Seigneur Jésus, qui a permis, que Dieu a permis qu'elle vive des choses difficiles et elle a eu la simplicité de nous les partager. Un jour, Jésus, c'est rare chez ces âmes-là, vous devinez, c'est des épouses, donc il leur évite tout ce qui est de l'ordre de la saleté, parce que c'est des épouses. Et là, il accepte, il consent à Jésus, tentation du mal. Et donc, elle est un jour prise de tentation dans l'ordre de la pureté, de l'impureté extrêmement virulente. Et le Satan lui dit, en lui donnant ses suggestions, « tu vas tomber !» etc. Donc, il lui fait croire. Elle se bat à mort. Elle a les suggestions, mais elle n'a pas le consentement. Et comme ces âmes-là, comme c'est un victime là, que j'ai la grâce de rencontrer, sont très simples avec le Seigneur Jésus, une fois l'orage passé, Jésus lui apparaît. Alors, il y a une mise au point. Mais enfin Jésus, où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez quand j'étais pris de ces pensées immondes? Jésus lui dit, j'étais là. Au fond de ton cœur, je combattais avec toi. Jamais je n'aurais été si proche de toi qu'à ce moment-là. Décodez, quand vous êtes tenté par de multiples tentations, pas que ces trucs-là, tentation de vertige, tentation de découragement, tentation de désespoir, vous êtes persuadé, parce qu'il arrive l'accusateur à vous persuader que Dieu est parti de chez toi. Dis-toi bien qu'au moment de tentation, il est plus là, si je puis parler comme ça. C'est un peu limite ce que je dis, mais voyez ce que je veux dire. C'est comme s'il donnait plus de grâce, une surdose de grâce, pour que tu vives et que tu sois victorieuse, victorieux de ton combat. Quatrième partie, après l'échographie de la tentation, séduction, connais-toi toi-même. Qu'on attribue, paraît-il, à Socrate, hein, si j'ai bonne mémoire, mais qu'en fait, il aurait lui-même piqué sur un fronton d'un temple de Delphes, ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe, c'est pour la petite histoire. Satan est extrêmement intelligent. À la différence d'un commercial qui, la plupart du temps, n'a qu'un produit standardisé à vous proposer, lui, il est hyper pro, je peux vous dire. Dans sa mallette de marketeur, là. c'est les GAFA, vous savez, avec les algorithmes. On ne se rend pas compte qu'on l'est complètement bouffé. Je viens de lire un bouquin d'une universitaire américaine qui est un peu spécialiste là-dessus, sur le surplus comportemental. Si vous ne faites pas attention, mais en fait vous n'êtes pas du tout libre par rapport à Internet pour acheter avec les algorithmes. Ils savent hyper cibler quels sont vos goûts. Mais mon père, moi je suis hyper libre. Pauvre tarte. Non, arrêtez de croire, on n'a jamais... C'est un hold-up de l'attention. Un ancien des GAFAM, j'ai plus son nom, James machin, je sais plus, bon, il dit, mais il n'y a jamais eu un tel hold-up de la liberté humaine qu'aujourd'hui. Arrêtez de croire que vous êtes libre. Si. Vous allez être libre si vous vous libérez de tous ces machins-là. C'est-à-dire vous les utilisez comme moyen et pas comme fin. Et donc, Satan est hyper pro, c'est-à-dire qu'il a un produit adapté à chacun, mais au micron près. Il sait exactement parce qu'il te connaît exactement. Il sait exactement les dispositions de ton âme. Il sait exactement les points faibles au niveau sensible, toujours sensible, hein, pas au niveau de l'âme. Voilà pourquoi Saint Jean de la Croix dit que la personne qui vit, je vous l'ai dit, dans des actes anagogiques, traduisés de manière très simple, des envols en Dieu et pas rester au niveau du terre-à-terre de ce qu'on ressent, basculer au niveau de la foi, louer, bénir, etc., cette personne échappe au radar de Satan. Voilà pourquoi la Vierge Marie échappe complètement à Satan. Dans cet esprit Saint-Angèle de Foligno qui ressemble tellement, ça fait partie des grandes amoureuses du Seigneur Jésus, elle écrit ceci, se connaître, connaître Dieu, voilà la perfection de l'homme. Vous avez quelque chose dans l'Évangile qui va dans ce sens? Luc 14, 28. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Alors, connais-toi toi-même. La première chose. Demandez la lumière pour connaître mes dispositions intérieures, mon orientation profonde au niveau de mon âme. Petite histoire dont elle avait le secret, Mère Teresa. Elle dit, voici l'histoire d'un pèlerin qui arrive dans une très grande ville et il voit un diablotin qui dort là et il le réveille pour lui demander pourquoi il ne travaille pas. Le diablotin répond que les gens de cette ville sont si mauvais qu'il n'a pas besoin de les tenter. Relax, baby, j'ai rien à faire. Puis, alors que le pèlerin repart de la ville, il arrive à une petite maison devant laquelle il y a un grand nombre de démons, des centaines, et tous sont très occupés. Le pèlerin leur demande pourquoi. Ils répondent qu'à l'intérieur habite un ermite. On leur dit d'essayer de piéger ne serait-ce qu'une seule seconde, mais ils n'y arrivent pas, car cet homme est fervent en prière et d'une grande pureté. Pourquoi aujourd'hui Satan est relax? Il est hyper relax parce qu'il a un boulevard. Avançons. Quelles sont mes dispositions? Donc, derrière l'histoire de Mère Teresa, c'est quoi? On va le dire en mots simples. Est-ce que tu as vraiment faim de Dieu? Tu es venu à cette retraite. Est-ce que tu as vraiment envie de faire retraite? Ou c'est la ritournelle habituelle? Parce qu'il faut bien la faire, je sais pas quoi, parce qu'on est religieuse ou parce qu'on est en équipe Notre-Dame, il faut bien en faire une par an. Mais en fait, on la subit, on la choisit pas. Et vous montrez que vous la choisissez aux dispositions extérieures dans cette retraite, qui traduisent, c'est un bon principe de réalisme de la philosophie, les yeux sont la vitrine de l'âme. La manière dont on se comporte extérieurement dit quelque chose de l'âme. Les corps avachis, ça dit quelque chose de l'âme. L'incapacité à se mettre à genoux devant le sacrement alors qu'on a la santé pour le faire dit quelque chose de l'âme. Autre chose, quelles sont mes failles et mes fragilités? Napoléon disait que l'art de la guerre consiste à choisir avec soin son point d'attaque et à y consacrer toutes ses forces. Je pense que ça parlait beaucoup à Hitler avec la fameuse guerre éclair qui lui a bien réussi au départ, mais un peu moins avant, après. Si notre adversaire constate que nous désirons vraiment Dieu, il va pas nous attaquer de face. Il est pas fou, je vous ai dit. C'est un super spécialiste en marketing. Il veut vendre son produit. Il sait que de face, il n'y arrivera pas. Il va chercher par le côté, le point faible, le point de fragilité. Puis là, il va... Thérèse d'Avila. La considération de nos péchés et la connaissance de nous-mêmes est le pain avec lequel il faut prendre tous les autres mets, si délicats qu'ils soient. Sans lui, l'âme ne pourrait se soutenir. Je vais vous donner quelques exemples. À travers les saints, parce que c'est tellement, les saints, c'est de la théologie vécue, c'est tellement extraordinaire. Vous voyez, le curé d'Ars, il fallait qu'il soit rendu faible à cause de la puissance de fécondité que Dieu a déposée dans son ministère. Et chez lui, chaque saint aura quelque chose. Un grillon de Montfort, lui, ça a été les attaques des autorités, des évêques. Il s'est fait jeter par je sais pas combien d'évêques. Padre Pio, lui, c'est la totale. Les stigmates, condamnation par Rome, injuste, totalement injuste. Enfermé dans son monastère, méprisé par l'évêque du coin, qui est en fait, qui a été relevé de son épiscopat tellement il menait une vie dissolue. Parce que c'est impossible pour quelqu'un qui vit une vie dissolue de vivre à côté quelqu'un qui est saint. Parce que c'est une claque qui lui est donnée sans arrêt. Chez le curé d'Ars, Jésus permettait que Dieu l'attaque par la tristesse. S'il y en a que ça gagne, qui se disent qu'ils sont des saints du ciel, qui ont connu ça. Le démon avoua au saint curé d'Ars. Tu me fais souffrir. Ah bah c'est intéressant ça. Ouais, mais faut en baver pour faire souffrir Satan, hein, je peux te dire. S'il y avait 3 prêtres comme toi sur la terre, mon royaume serait détruit. Tu m'as enlevé des milliers d'âmes. Le tentateur, que faisait-il? Des bruits la nuit pour l'empêcher de dormir, de manière à le fragiliser le lendemain. Avec ses heures et ses heures de martyrs de confessionnal. Plus les pécheurs affluaient, plus une sorte d'affolement le saisit à la pensée que ses péchés entravaient l'action de la grâce, alors que c'est une âme parfaitement immaculée. Vous allez dire, mais c'est terrible, c'est la pédagogie de Dieu pour maintenir quelqu'un qui va utiliser pour une mission très puissante, il faut qu'il la rende petite. De manière à ce que la toute-puissance entre à flot là-dedans. La peur de manquer, de capitaliser et même de voler. J'ai remarqué une chose, la fièvre acheteuse. La fièvre acheteuse. Quand les gens ne sont plus dans l'être, ils sont dans l'avoir. Le moindre psy vous le dira. C'est-à-dire que il y a des manières d'accumuler, qui sont en fait une révélatrice de l'âme, qui ne vit pas au niveau de l'être et elle compense avec de l'avoir. Et le voir est déjà une grande libération. N'oubliez pas, en médecine, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques médecins parmi vous, 50% d'un bon diagnostic, c'est quasiment la guérison, dit-on. Hein? Mère Teresa dit ça à ses sœurs, religieuses missionnaires de la charité. Le diable ne vous demandera jamais de voler quelque chose de gros. Il est très chalac, rusé en bagage. Il vous dira, prends seulement Diana Paisa, menu modèle local, dans la bourse de voyage. Et le jour suivant, un peu plus, petit à petit. Il ne vous dira jamais de prendre 10 roupies dès le premier jour. Mais le jour viendra où il vous dira de prendre une grosse somme sur la table de mère. Elle ne faisait pas attention du tout au pognon qu'on lui donnait. Elle recevait des liasses et des liasses, entassées comme ça. L'aspiration à être reconnue. Avec les histoires de télé-réalité, tous ces bataclans aujourd'hui. Aujourd'hui, la grande aspiration de l'homme moderne, c'est être reconnu, passer à la télé. Tu parles. Saint Jean Climac va jusqu'à dire que l'orgueilleux n'a pas besoin de démon. Il est devenu pour lui-même un démon et un ennemi. Je termine. Veillez au bon usage des dons que nous avons chacun, des charismes que nous avons chacun. Tout le monde a des dons. Si j'osais ce jeu de mots, tout le monde est digne d'un don. Je vais laisser parler Lorenzo Scupoli, qui a écrit une grande figure de la tradition spirituelle sur le combat spirituel, et qui parlait beaucoup, il l'avait dans sa poche de soutane tout le temps, François de Sales. Pour vous montrer comment le diable est capable de se servir de vertu, quand il voit qu'il ne peut plus nous avoir par le péché, il va nous avoir par les vertus, pour nous faire tomber. Je suppose une personne malade qui supporte patiemment son mal, le démon sachant que par ce moyen, elle va acquérir de la patience, de la sainteté, lui met devant les yeux beaucoup d'œuvres saintes qu'elle pourrait faire dans un autre état si elle n'était pas malade. Et il est force de la persuader, si elle se portait bien, qu'elle servirait mieux le Seigneur et serait plus utile aux autres et à elle-même. Lorsqu'il est parvenu à exciter ses désirs en son cœur, il les fortifie peu à peu, jusqu'à la rendre inquiète de ne pas pouvoir mettre ses désirs à exécution comme elle voudrait bien. Et plus ses désirs grandissent et se fortifient, plus l'inquiétude augmente. Mais voyant que la guérison se fait attendre, elle se trouble au point de devenir tout à fait impatiente. C'est ainsi que de la vertu qu'elle pratiquait, elle tombe sans s'en apercevoir dans le vice contraire. C'est bien l'examen de conscience, mais je vais vous dire, on en est incapable. Pourquoi ? Parce que le péché aveugle le pécheur sur lui-même. Que faut-on donc faire pour faire l'examen de conscience? Un petit garçon ou une petite fille, je ne me souviens plus, en catéchèse, avait bien dit les choses avec un lapsus. Elle a dit « Ah, monsieur le curé, il faut que je fasse mon examen de confiance. » Elle n'a pas tort. C'est en demandant à l'Esprit et à la Vierge « Montre-moi mes péchés. » Et pour notre domaine, « Montre-moi mes failles. Montre-moi les charismes éventuellement dans lesquels je me complais, je ne m'en rends même pas compte. » Etc. etc. Connais-toi, toi-même. Mets dans la lumière de l'Esprit.